Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui incarne l'esprit d'innovation. Comment ? On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Wassila Kara Ibrahimi, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella Wassila ?
Oh, ça va, il y a un joli soleil, tout va bien.
Alhamdoulilah. Alors, oui. Notre rendez-vous de femme d'aujourd'hui, Wassila, c'est pour parler de la femme que tu es aujourd'hui, ce qui a pu te construire, comme on dit, strate après strate. Alors, toi, tu es née à Azilal.
Oui, exactement. On a quitté le Maroc quand j'avais 6 mois.
D'accord.
Donc, et ensuite, je suis revenue quand j'étais mariée.
Oui.
Mais je crois que quand tu parlais tout à l'heure de strate, et moi, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'écrivains qui en parlaient, c'est que moi, la personnalité que j'ai aujourd'hui, c'est aussi justement cette vie que j'ai eue en Algérie, les échos que j'avais eus de la vie que mes parents avaient eue au Maroc, sachant que ma mère est une Algérienne du Maroc. Elle est née, elle a grandi au Maroc. Donc, moi, je crois que ce qui m'a bercée, ce qui m'a construite, c'est aussi ce départage en Algérie, ensuite un passage en France, ensuite ce retour au Maroc, l'endroit où je suis née. Et je crois qu'on est un patchwork. On n'est pas une seule. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment une richesse. Je me sens un petit bout de chacune de ces villes ou de ces pays où j'ai vécu. J'ai vécu en Algérie, j'ai vécu en France, j'ai vécu au Maroc. J'ai passé beaucoup de temps en Espagne. Et j'ai l'impression que ces 4 pays ont donné de moi une facette de ma personnalité, mais réellement, quoi.
Alors justement, quand on a vécu sur différents continents, dans différents pays, différentes villes, cultures, etc., est-ce qu'on peut travailler dans un bureau ? Est-ce qu'on peut s'enfermer ou forcément on devient entrepreneur ? Est-ce que ça façonne aussi ?
Elle est super cette question. En fait, je pense qu'on ne peut pas s'enfermer.
Ouais.
On ne peut pas parce qu'on a... Moi, j'ai toujours besoin d'avoir... D'ailleurs, là où je suis assise maintenant, je suis chez moi à Marrakech. J'ai toujours... La première chose que j'ai faite pour... dans cette maison, c'était d'avoir une vue, d'avoir une vision, d'avoir une perspective. Et je me rappelle que même dans l'un des bureaux que j'avais eu à Casa, parce qu'on avait peu de moyens au début dans l'entreprise que j'avais créée, et j'avais une petite fenêtre avec une vue vraiment pas sympa, pas de perspective. Et la première chose qui m'a motivée à avoir plus de moyens et à déménager, c'était d'avoir une possibilité d'avoir de la perspective et donc de pouvoir bouger et une certaine forme de liberté et de nomadisme. C'est vrai que celle-ci, elle a fait tous mes choix, qui n'ont pas toujours été faciles, hein, il faut le dire, hein, à titre personnel, hein, que ce soit au niveau entreprise ou que ce soit à titre personnel. Ce besoin
de liberté.
D'indépendance et de liberté a fait que des fois, on fait des choix compliqués.
Ouais.
On gagne sûrement moins d'argent, on reste peut-être pas en couple, parce que cette liberté de penser, cette liberté d'être ce qu'on est, fait que elle est plus forte. Et je disais, voilà, elle n'est pas toujours facile à assumer, franchement.
Tu as aussi, pendant très longtemps, été dans les RH.
Oui, très longtemps. Ouais,
ouais. Ça a été tes premiers amours professionnels ?
Pas complètement. En fait, quand je me destinais à être plutôt avocate au début, quand j'étais à Paris. Et comme moi, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, mes parents étaient nombreux, on faisait tous des études. Et donc, voilà, il fallait se prendre en charge entièrement de ce point de vue-là. J'avais une petite bourse. Et j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en productivité commerciale qui était filiale d'un grand groupe informatique. Et ce cabinet m'a offert, à la fin de mes études de droit, la possibilité de rester comme consultante et de devenir... business developer, en fait, comme on le dit aujourd'hui. Et ça m'a tellement plu qu'en fait, j'ai préféré continuer dans ce domaine-là et ne pas être, en fait, sur la partie barreau. Hein. Franchement, je n'ai pas de regrets parce que quelque part, ce que je fais dans les réseaux féminins, les plaidoyers et tout, ça rejoint un petit peu toutes les études que j'ai faites. Hein. Ça aide énormément. Et donc, j'ai bifurqué. Et les RH, c'est venu quand je suis venue au Maroc. Donc, ça a été d'abord le conseil de manière plus générale et plutôt en marketing direct, en productivité commerciale. Et je crois que c'est ma vraie nature, le business development. Et du business development, en fait, je suis allée tout de suite à l'entrepreneuriat. Mmh. Déjà, mais dans la structure où j'étais à Paris, j'étais libre déjà. Hein.
Ouais, pardon, mais les RH, à ce moment-là, j'imagine, c'était aussi les prémices, parce que je pense que les prémices du RH comme tu l'as pratiqué, des RH comme tu les as pratiqués. Parce que voilà, parce qu'avant, les RH, c'était quoi? C'était recruter, payer, virer peut-être,
ouais,
mais
oui,
c'est tout.
Oui, oui, oui. Mais nous, là, on a été très innovants, j'en suis très fière hein, avec mes collègues, hein, puisque j'avais des collègues, deux femmes, on était trois femmes, on était deux et puis ensuite trois femmes. Mmh. Ça a été d'abord des rencontres, en fait, les RH. C'était la rencontre avec un industriel qui m'a fait confiance et il avait des grosses problématiques RH et de recrutement particulièrement. Et je peux dire que franchement, nous avons été très innovantes par rapport à ce métier-là, vraiment. Et c'est là où, en fait, voilà, moi je crois qu'au-delà des RH en elles-mêmes, au-delà des RH, c'était l'innovation dans les RH qui me plaisait. Mmh. Le RH classique, franchement, pas particulièrement, mais l'innovation. Et c'est ce qui fait d'ailleurs ce que j'organise aujourd'hui avec mes deux autres partenaires, c'est l'innovation. C'est l'innovation dans les RH. Parce que l'être humain évolue et pour qu'il évolue positivement, il ou elle, il faut de l'innovation. Mmh. Et je pense que moi, c'est l'innovation au cœur du capital humain. Et donc, dans le recrutement, nous avons été un cabinet très, très innovant, réellement. Je me rappelle que les premières annonces en couleur, aujourd'hui, ça peut paraître un peu waouh, mais en couleur avec la mention du client directement et son logo, c'était nous sur un grand quotidien marocain.
Oui.
Mais, et donc, je suis assez fière. Hein. C'est plein de petites choses comme ça. Hein.
Mais à ce moment-là, justement, on parlait pas encore d'innovation. C'était pas encore...
Complètement, mais
voilà,
d'accord.
On parlait pas d'innovation. Ouais. On parlait pas de tous ces éléments-là qui font aujourd'hui qu'on a envie et qu'on encourage les gens à think outside the box. Et donc, forcément, toute idée innovante est la bienvenue et peut être surprenante, peut interroger au début, déranger, mais... reste la bienvenue, on dit ils ont osé, elles ont osé. À ce moment-là, j'imagine, je pense que ça devait être dans les années 90, ouais, c'est là si je me situe bien.
Oui, je suis arrivée en 95. Oui.
Voilà, à ce moment-là, on n'était pas du tout dans cette optique-là, c'était pas du tout l'optique de l'innovation, c'était l'optique de la prudence, c'était, j'imagine, surtout des femmes oser faire les choses différemment. Moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête par rapport à tout ce contexte-là. D'abord, qu'est-ce qui a formaté ton esprit à think outside the box, à sortir du cadre, en fait, et à réfléchir différemment et à oser, OK? Et ensuite, quelle réaction as-tu eue à ce moment-là de la part d'autres confrères, d'autres consoeurs? Voilà, raconte-moi un petit peu à ce moment-là, quand tu es arrivé avec l'innovation, comment ça s'est fait et qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je pense que le formatage, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qui a formaté cette dimension que j'ai de réfléchir en dehors du vocal, en fait, c'est plusieurs choses. Moi, je crois que la première, c'est tout de même l'éducation. Moi, j'ai une mère qui était très libre. Et ça, je crois que était très libre. Et puis, quand les gens disaient des choses sur nous, parce qu'on était trois filles, elle disait... Elle répondait à la limite même pas et elle nous disait « Soyez ce que vous êtes, c'est à la limite singulière et ne vous... franchement, il ne faut surtout pas écouter ou en tout cas se dire qu'est-ce que les autres vont penser. » Je crois que ça, c'est la première brique qui m'a poussée à réfléchir en dehors de ce bocal-là. C'est de se dire « Si je sens que je dois faire la chose et qu'elle est authentique et qu'elle me ressemble et qu'elle est cohérente, eh ben, je vais y aller. » Et même si c'est en dehors du vocal, ça le sera. C'est pas... Donc ça, c'est la première chose. Je crois que c'est la brique. C'est, la...
c'est déjà avoir la permission morale de pouvoir le faire,
De pouvoir le faire. Donc celle-là, je l'ai eue.
Ouais.
Je l'ai eue par ma mère parce qu'elle nous a énormément élevés dans ça. Donc déjà, cette liberté d'être ce qu'on est. Et ça, je lui rends vraiment hommage, ma mère, tous les jours, que j'appelle tous les jours. La deuxième chose, bien sûr, c'est les études, c'est les rencontres. Et c'est aussi les communautés, les amitiés qu'on se fait. Et il est vrai aussi que maintenant, avec le recul, je me rends compte que les amies féminines particulièrement que j'ai eues notamment au début de mes études de droit, et même avant, ça a toujours été aussi des jeunes femmes pas du tout conformistes. Mmh. Et donc, je crois que ça aussi, donc c'est des gens, les gens, même aujourd'hui d'ailleurs, les gens qui sont nos proches, en tout cas ceux qui sont autour de nous, sont aussi dans une certaine liberté, un certain anticonformisme, dans le sens innovant. Et donc, moi, je crois qu'il y a ça, c'est la deuxième brique, donc c'est l'entourage. Après, bien sûr, on a... Et la troisième chose, moi, je pense aussi que c'est une recherche de... Cette recherche de nouveauté, de repousser un peu les lignes, même si, quelque part, attention, il y a quand même une contradiction chez moi, puisqu'en même temps, j'ai fait des études de droit. Mmh. Études de droit, c'est la règle, c'est la norme, c'est... Donc, ça, moi, j'ai quand même pas mal de contradictions par rapport à ça, parce qu'en fin de compte, il y a ce côté... Très.
Mais tu l'assumes en fait. Tu en es consciente et tu l'assumes. Ouais, ouais.
Oui, parce que je suis quelqu'un, c'est vrai, qui va pas aimer être rebelle sur certaines choses, qui respecte la loi. Donc non, sur ça, c'est marrant, c'est très contradictoire quelque part. Mm. Mais en même temps, l'innovation fait que le désir de la nouveauté, des choses différentes des autres, c'est quelque chose. C'est comme si elle un puissant appel du fin fond de moi-même, de ma personnalité, vraiment.
Alors, tu as des enfants, hein. Wassila ?
Oui, j'en ai trois. Ouais. J'ai trois enfants, très, très différents, les trois.
Alors, justement, ils s'en sortent avec toi quand on incarne tellement de contradictions, mais qu'on les assume en même temps ?
Oh, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une relation avec chacun. J'ai deux garçons et une fille. Et avec chacun, c'est vrai que j'ai une relation très, très différente. Ouais. L'idée, c'est essayer de ne pas les écraser et qu'ils fassent leur propre chemin. Mm. Moi, je crois que c'est quelque chose qui nous... En tout cas, qui me tient à cœur. Et j'essaye de faire attention.
Alors là, tu te lances dans un nouveau projet.
Oui.
Innovant, qui est là pour construire le futur de l'employabilité, c'est ça, The Future of Work
Forum. C'est au-delà de l'employabilité, c'est okay. Vraiment le futur du travail dans le sens global, c'est-à-dire au-delà même de l'emploi. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneur, collaborateur ou collaboratrice, on peut être artiste peintre, parce qu'on fait un travail, oui. Hein, on peut être musicien. En fait, c'est aujourd'hui, c'est de se dire, la crise du Covid a tout de même, il y a eu un avant et un après. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, on voit son travail, donc c'est le travail dans le sens large, autrement. Mm. Et ce serait bien que les tendances sont très nord-américaines ou européennes. Et moi, je trouve que ce serait bien que nous, Africains, on est Africains, Berbères, Méditerranéens, bah, qu'on puisse construire nos propres modèles. C'est peut-être quelque chose qui en ferme, mais en tout cas, nos propres tendances. Moi, ouais. J'aimerais qu'on les construise nous-mêmes, qu'on les discute. Et avec deux partenaires, on lance un Future of Work les 16 et le 17 mai à Anfa Park, qui est aussi un lieu très innovant. En même temps, c'est un parc. En même temps, il y a des gens qui habitent. En même temps, il y a des bureaux magnifiques. Donc, on a voulu aussi que le lieu soit très original, puisqu'aujourd'hui, on va travailler même dans un jardin où il y a une certaine liberté. Et puis, aujourd'hui, on a remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de multi-activisme. C'est-à-dire qu'on peut, comme vous, je ne sais pas, être n'importe quoi, journaliste le matin et l'après-midi, faire complètement un autre job, qui est, ou d'enseigner, ou peut-être même d'avoir un autre commerce. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on aborde le travail
différemment.
Autrement. Différemment. Mmh. Et l'idée, c'est qu'on réunisse des décideurs, des DRH, des gens du digital, des sociologues, des philosophes aussi, pour dire, bah, aujourd'hui, au Maroc et aussi plus largement en Afrique subsaharienne, bah, qu'est-ce que ça a fait chez nous ? Quel est l'écho ? Quelle est cette lame de fond qui fait que nous aussi, on va aborder le travail autrement et ne pas essayer de... En fait, ne pas se faire imposer des tendances qui viennent trop d'ailleurs. C'est-à-dire que s'en inspirer, clairement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il faut savoir s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais après, il faut peut-être faire sa propre recette, me semble. Et donc, c'est le Future of Work Forum Africa, le 16 et 17 mai à Casablanca. Oui.
Alors, par rapport à ça, quand on est entrepreneur, on peut adapter trouver sa propre tendance. Mais parce que le forum va regrouper, comme tu l'as dit, plusieurs profils. Mais lorsqu'on est chef d'entreprise, finalement, c'est le patron qui impose... qui impose la tendance, qui impose sa vision. Donc finalement, l'adaptabilité est tributaire de la flexibilité de l'homme, avec un grand H derrière le...
Ça dépend. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a un gros souci de rétention, de retenir les talents,
oui.
les bons profils, que ce soit hommes ou femmes. Et à ce moment-là, le chef ou la chef d'entreprise ne sont pas si... En fin de compte, ne sont pas si puissants par rapport à ça. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent absolument composer avec cette capacité à retenir les talents. Et pour les retenir, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et à partir de là, il faut composer avec cette nouvelle donne, avec cette génération, qui d'après moi n'est pas si nouvelle. Parce que toute nouvelle génération a de nouvelles attentes. Et donc, ce ou cette chef d'entreprise, pour répondre à ta question, n'est pas si libre. Il est ou elle est obligée justement de se dire, c'est quoi les tendances ? Il faut que je les comprenne. Et parce que ce chef ou cette chef d'entreprise, l'objectif de rentabilité, de performance est quand même vital. Hein, parce
exact.
Que sans ça, désolé, hein, aujourd'hui, les temps sont durs. Hein, donc, obligé. Mais en même temps, la composante capital humain et l'impact de l'IA aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'IA, moi, je pense réellement, hein, générative en tout cas, permet de gagner du temps. Bon, je crois qu'il faut la voir plus comme ça.
Oui.
Et permet d'augmenter ses compétences. Elle n'est pas une concurrente, hein, en tout cas à mon sens. Elle permet peut-être de faire d'autres tâches ou de les faire autrement. Donc, ce ou cette chef d'entreprise, pour répondre à la question, n'est pas tout puissant. N'est pas tout puissant.
Ouais. Il le réalise ou pas ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience que la toute-puissance du patron est révolue ?
Ah, peut-être pas tout le monde. Franchement, je n'ai pas
ce
retour.
C'est ça la problématique.
Oui, c'est vrai. Sur ces 95% des PME, du tissu économique marocain, sont des PME. Donc, clairement, au TPE. Donc,
ouais.
Il est vrai que après, on peut se poser une question. Tu sais, c'est de se dire, est-ce que la petite TPE qui est au fin fond... je vais donner n'importe quel exemple. Hein, je ne sais pas, moi, à Tiznit, du côté d'Agadir... son quotidien, est-ce que c'est de se dire en fait c'est quoi la nouvelle tendance
Exact. Ouais.
En même temps, attention, parce que j'y pense aussi, en même temps, on peut être étonné, parce que moi je trouve que même rien que l'utilisation du WhatsApp dans ces petites entreprises a fait que ils ont avancé sur plein de process, sérieusement. Et sur les paiements aussi, peut-être des fois à distance et tout. Donc il ne faut pas négliger tout l'impact de sa technologie dans les petits coins qui font avancer ces TPE. Et peut-être que c'est à nous, dans les villes, de faire, de partager, sans être dans l'utopie, mais de partager ces tendances et peut-être de faire en sorte qu'elles soient accessibles. Moi, je crois que cet exercice, il est plutôt là.
C'est facile de monter un forum from scratch.
Waouh. franchement, c'est un effort de tous les instants.
Ouais.
Je me réveille avec, je dors avec.
Mais quel plaisir on y trouve justement, puisque il y a tellement de... C'est ça, en fait, on monte un truc de rien. Il faut convaincre, parce que j'imagine qu'il faut des fonds.
Il y en a qui vous disent Future of Work, c'est quoi ça ?
C'est quoi ça exactement ?
C'est quoi ça, on est obligé d'embarquer, en fait, dans un premier temps, heureusement que j'avais fait du business development, d'abord nos alliés, ceux qui croient en nous.
Ouais.
Et qui savent que bon, quand même, on se lance pas dans, et que réellement c'est une réelle tendance. Moi, en tout cas, aujourd'hui, ce concept, fin avril à Dubaï, il y aura un Future of Work. Genève a eu sa première édition l'année dernière. Londres, c'est la cinquième. Singapour aussi. Mais il me semble là qu'en tout cas dans le continent francophone africain, il n'y a pas eu deux journées sur du Future of Work qui a été organisée quelque part. Donc le Maroc là innove aussi, et moi je crois que la fierté elle est là aussi. Donc si ceux qui nous écoutent, c'est dire ceux qui ont en tout cas embarqué avec nous à aujourd'hui, bravo, parce que le Maroc sera encore un hub, et on a l'ambition de faire des Future of Work à Abidjan, à Dakar, à Yaoundé. On aimerait beaucoup, parce que on a globalement les mêmes problématiques, et ce serait bien que la discussion, que l'échange aussi s'élargisse. Et d'ailleurs, on a un partenaire qui est basé aussi à Dakar et avec qui on échange sur le sujet tous les jours et qui sera là.
Est-ce que parfois tu te dis après ce forum j'arrête, je veux me reposer?
En fait, je me dis ça à chaque fois. Et je dis ça à mes enfants à chaque fois.
Ouais.
Et puis à chaque fois, ils sont... Ma fille a rigolé, elle me dit « Maman, alors ?» Et en fait, je me rends compte que tant qu'il y a l'innovation à partager, je crois que je n'arriverai pas à arrêter. Même si des fois, je me dis oh, « Je devrais arrêter, aller faire juste du sport, transmettre, donner peut-être à des jeunes entrepreneurs, avoir un rythme plus cool. » Bon, l'année dernière, j'ai été malade, ça a été très difficile. J'ai dû décrocher un peu, mais franchement, pas beaucoup. Et je me rends compte que je repars de plus belle. Donc, quelque part... Non, je crois qu'on n'arrête pas.
Mais alors justement, quand on est malade, est-ce qu'on ne se dit pas « Attention, il faut que je me rentre sur moi » ou au contraire, on se dit « Non, la vie est courte, je dois continuer à donner au maximum
» En fait, on a les deux, je crois. Alors, j'ai appris quand même à faire une chose, j'ai appris à m'arrêter. C'est-à-dire à m'obliger à aller à mes cours de pilates, à aller faire ma marche, à quand je vois que je ne peux plus, à m'arrêter ce que je ne faisais pas avant. Avant, c'était vraiment jusqu'à épuisement. Donc maintenant, je m'écoute parce que je me dis, disons, si la machine ne marche plus demain. Donc ça, déjà, ça oblige à ça. Et à relativiser aussi. Bon, c'est peut-être tout le monde le dit, j'imagine. En tout cas, relativiser en se disant, bon, c'est un forum. De toute façon, on a le projet d'entreprendre quelque chose de nouveau. Tous ceux qui nous ont rejoints, bah, bravo, et on va y arriver. Et puis après, si ce n'est pas exactement ce qu'on veut, ben ce sera exactement ce qu'on veut à la deuxième, à la troisième. Parce que je pense que le succès, c'est un long chemin. Je ne pense pas que... En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de succès du jour au lendemain. Et après, ça y est, non. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs. Après, je suis repartie. Après, franchement, ça jamais... Ce n'est pas un long fleuve tranquille.
C'est ça.
La maladie permet de relativiser, permet de prendre un peu plus soin de soi tout de même. Oui. Et d'être plus indulgent, je crois.
Alors, Wassila Kara Ibrahimi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour cette belle discussion humaine, vraie, entière et sans langue de bois. Une vraie femme d'aujourd'hui.
Et merci, merci à toi. Merci pour la qualité de tes questions.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.